Bonjour Alvi Bitemo et Rachel Dufour. Donc Alvi, vous venez de jouer ce soir Stand Up, Reste Debout et Parler. Et Rachel Dufour, vous êtes la metteuse en scène. Première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que le stand-up? Puisque visiblement vous êtes revenu à un stand-up des origines. Alors ça veut dire quoi?
Ça, je veux bien répondre. Bonsoir. En fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans le stand-up, dans sa culture américaine, le stand-up, c'est quelque chose qui naît de façon très forte aux États-Unis, années 50-60, qui est une culture underground dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que concrètement, ça se passe dans des caves de bistrot. Et underground, dans le sens où c'est le contraire d'une culture mainstream très populaire. C'est encore très répandue, cette culture aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui décide de monter sur scène en évacuant toute notion de personnage, qui prend la parole en son nom propre. Et pour parler d'un endroit où il estime être à la marge de la société ou pour dénoncer des lieux de domination dans la société. Donc dans les années 60 aux États-Unis, ça va beaucoup être des personnes noires qui vont prendre la parole, par exemple, ça va être des personnes juives, ça va être des personnes communistes. Et aujourd'hui encore, des personnes noires, ça n'a toujours pas changé, des personnes musulmanes. Des femmes voilées, des pauvres. Être pauvre, c'est un sacré endroit où on subit une domination dans la société aujourd'hui. Et cette personne, elle prend la parole et elle fait le pari d'un rire, c'est-à-dire qu'en détendant les zygomatiques et le diaphragme, ce grand muscle central qu'on a sous l'estomac, elles se disent qu'elles vont réussir à faire entendre autrement des choses que dénoncent déjà beaucoup les médias, certaines personnalités politiques, parce qu'elles vont aller très loin dans une espèce de rire de provocation et qui a une vocation politique, en fait, ce rire. Et c'est vrai que le stand-up, quand il a traversé l'Atlantique et qu'il est arrivé en France, ben très vite, il s'est accoquiné avec un rapport au divertissement qui l'a emmené vers le one-man show ou le one-woman show, qui est un rire beaucoup moins politique, qui vient un peu moins nous déranger. Donc voilà, on est revenu à cet endroit-là du stand-up dans sa culture plutôt américaine.
Alors ça nous fait rire, c'est sûr, mais on sent évidemment qu'il y a quelque chose derrière. Alors moi, j'aimerais savoir comment ça a été écrit, ce spectacle, puisqu'il y a une auteure qui s'appelle Florence Pazzotu, mais j'imagine que vous avez mis aussi beaucoup de vous.
Alors tout s'est passé au fait sur des improvisations que moi je commençais à faire sur scène. C'est des sujets que Rachel, la metteuse en scène, qui propose par exemple un tel sujet. Alvi, tu peux parler de ce sujet-là. Du coup, je me mets à parler, à expliquer par rapport à ce que moi je connais, ce que je sens. Et l'autrice qui était avec nous, donc on lui a demandé si elle pouvait écrire en direct de ce qu'elle entend. Elle a dit non, je ne peux pas écrire comme ça en direct. Mais au fait, elle a écouté et à la fin de la journée, elle avait écrit plein de choses qu'elle nous a fait lire. Et c'est vraiment de la matière qui vient de moi, que j'expose. Et elle cherche à mettre une langue à l'intérieur, toujours en gardant ma respiration à moi, ma façon de construire aussi certaines choses. Donc il y a plein de textes qui sont vraiment écrits à l'intérieur. Et il y a d'autres où on a préféré garder en forme d'improvisation ouverte, comme ça, en continu, mais qui est assez structurée.
On sent que vous aimez ça, d'ailleurs, l'improvisation, non ?
Moi, j'aime bien parce que ça laisse une liberté, ça ne fait pas un spectacle figé. C'est pas comme quand on va voir un vrai spectacle de théâtre. Moi, j'aime bien que ça laisse cette ouverture, le stand-up. Ça permet d'écouter l'autre et de pouvoir rebondir aussi sur une des réactions dans la salle. C'est vivant, c'est la vie, quoi.
Oui, parce qu'en fait, ça, c'est la structure même du stand-up. C'est que la personne, elle prend la parole en son nom propre, en faisant croire que tout est improvisé, alors que c'est extrêmement écrit, parce que le mécanisme du rire, évidemment, c'est pas des formules comme ça qui viennent spontanément. Par contre, ce qui est improvisé en quelque sorte, c'est la relation avec le public qui est performée sans cesse et on rebondit tout le temps sur certaines réactions pour aller dans le sens de ce qu'on a à dire derrière.
Oui, donc finalement, chaque soir, c'est différent, puisque chaque soir, vous avez un public différent et vous vous servez beaucoup du public. Et limite, on pourrait presque croire qu'à certains moments, ça pourrait être presque une conversation, puisque vous incitez tout le temps les gens à vous répondre.
C'est ça, le stand-up, ça reste jamais figé. Chaque public n'est pas pareil. Chaque salle où on va, c'est pas pareil. Il y a des publics qui sont très théâtraux, on va dire, donc qui écoutent comme un vrai spectacle de théâtre et qui vont applaudir à la fin. Et il y a d'autres qui sont dans la réaction tout de suite parce que c'est ouvert à ça. Ça donne la possibilité de parler, de rire et de rebondir là-dessus. Du coup, c'est jamais pareil.
Mais c'est très juste quand vous parlez de conversation. Moi, j'ai vraiment construit le spectacle comme ça, comme une conversation performée avec le public, même s'il est évident qu'on n'est pas autour d'une tasse de thé et que les gens vont vraiment prendre la parole de façon aussi importante que la comédienne. Mais c'est un peu cette ambiance quoi, en fait, qui est cherchée.
Alors, on est embarqué donc avec vous dans votre histoire. On part avec vous au Congo, donc. C'est comme si on était vraiment avec vous, qu'on vivait votre vie et qu'on découvre votre parcours de comédienne aussi.
L'enjeu, c'était de me montrer comment je suis, d'où je viens, de qui je suis, de où je vis, de où je vais. et de ce voyage que j'ai l'habitude de faire moi toute seule. C'est le faire avec le public, embarquer avec vous ensemble. Et c'est là aussi parfois qu'on arrive à découvrir, on dit « Ah ouais, il y a des gens qui ne sont pas très calés à la géographie. » Mais bon, ça fait rire et tout ça. D'où cette question où les gens souvent pensent que l'Afrique, c'est un pays. Il y a beaucoup de gens qui ont ce langage de dire « Alors, tu es africaine et tu parles africain ?» Non, ça n'existe pas. C'est un pays, je ne peux pas dire à quelqu'un que tu parles européen. C'est pas possible. C'est comme dans la danse. C'est pas la danse africaine, non. C'est la danse du Ghana, du Sénégal, du Congo. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, c'est l'enjeu d'embarquer les gens aussi pour voir. Voilà, c'est ça, en fait, qui existe. C'est pas mettre toute l'Afrique dans une bulle et ça devient un pays. Non, non, non. C'est bien différent. C'est bien séparé à l'intérieur.
Et moi, j'ai une question sur votre joie de vivre communicative, comme ça, sur scène. Elle vous vient plutôt de l'Afrique ou de Paris?
De Paris, je pense pas trop, parce que Paris, avec le stress, l'angoisse. Je pense que vous connaissez bien Paris, avec les métros, quand on court partout, et dès qu'on rate son train, on est vraiment mal barré. Je pense que Paris, oui, il y a sa joie aussi, Paris. Oui, il y a une certaine joie qui est donnée, mais en tout cas, il y a beaucoup de stress et d'angoisse. Alors, la joie, je pense que... D'où je viens moi, en tout cas dans mon petit village où j'ai grandi, c'était vraiment, on se connaît tous, on partage tout, c'est vivant, c'est gai. Par contre, arrive dans la grande ville, à Brazzaville, les choses commencent à changer, bien sûr. Mais il y a toujours cette joie de vivre. Après, je pense que moi, en tant que comédienne et en tant qu'Alvi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour reprendre la joie que j'avais de l'enfance. Parce que n'oublions pas que le Congo a traversé beaucoup de guerres. Et c'est des choses qui m'a terni beaucoup à l'intérieur, qui a fait que le rire devenait assez compliqué, le sourire devenait assez difficile. Mais à un moment donné, j'ai fait un travail aussi à l'intérieur pour pouvoir retrouver un peu cette chose, ne pas perdre la petite flamme lumineuse à l'intérieur que j'avais quand j'étais petite. Et d'ailleurs, c'est pour cela que cette histoire de Mbongi, ça revient et je pense que Rachel a bien vu quand j'ai raconté pendant l'impro, elle a fait « c'est génial, on garde ». Mais parce qu'il y a cette flamme qui revient avec le Mbongi, parce que c'est quelque chose de réel, du vécu, qui a été là. Et d'ailleurs, maintenant, j'aimerais bien aller reconstruire le Mbongi dans mon petit village.
Justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le Mbongi?
Alors, le Mbongi, c'est une grande maison, mais qui se trouve juste au centre du village. C'est vraiment placé au centre, à tel point que ceux qui viennent du sud, de l'est du village, ils peuvent venir se retrouver là. Et c'est, on pourrait dire, presque une grande case avec deux murs seulement. Et les deux côtés ouvertes où les gens rentrent, il n'y a pas de portail. Non, c'est pas fermé. Et au milieu, il y a du feu qui ne s'éteint jamais, en fait, ce feu-là. Parce que tous les habitants du village, chacun est responsable de ce feu-là. Il y a toujours quelqu'un qui passera pour mettre un morceau de bois pour que ça puisse continuer à allumer. Et il faut qu'il y ait toujours de la nourriture. Les gens apportent, quand tu allais à récolter tes maïs, s'il y en avait beaucoup, ben tu passes, tu laisses quelques maïs là, tu me laisses quelques arachides. C'est pour tout le monde. Et surtout pour les orphelins. Parce qu'il y a toujours un qui a perdu sa mère ou qui a perdu son père. Il faut toujours qu'il y ait des trucs pour tout le monde. Et surtout pour les étrangers. Parce qu'un étranger qui passe par là, qui est perdu, qui ne sait pas où dormir la nuit, il peut dormir là. Il peut manger, il peut boire. Et c'est là aussi tous les soirs où les gens se retrouvent pour parler des problèmes de village. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, je n'avais pas besoin de poser la question sur quelque chose pour comprendre. C'est le soir, Mbongi. Quand il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est Mbongi qu'on saura. Les gens, ils vont parler, et c'est là où tu apprends. Et tout le monde peut poser les questions, comme j'ai dit tout à l'heure dans le monde. Les enfants et tout, pour tout le monde. Mais il y avait des gens qui étaient plus initiés, qui voyaient ce que nous, on ne voit pas, qui voient l'ailleurs. Et ceux-là, on les respectait tellement, parce qu'on sait que c'est le bien du village, et aussi reposer sur eux.
Et moi, Alvi, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, en fait, j'aimerais beaucoup que le Mbongi soit une métaphore du théâtre. Et que cet endroit où, même quand tu viens et que tu n'as pas de questions, tu repars avec des réponses. Ça m'a beaucoup plu.
Justement, en parlant du théâtre et du parcours d'une comédienne noire, alors c'est vrai que vous avez expliqué que souvent, les comédiennes, quand elles vont à un casting, on recherche souvent des comédiennes noires pour qu'elles soient femmes de ménage, coiffeuses, etc., etc. Souvent, on leur demande de faire l'accent africain, donc l'accent africain qui ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire parce que moi, par exemple, ça, j'ai découvert ça à Paris en train de faire des castings. Et après, je suis allée à Marseille aussi où je suis allée vraiment faire. C'est vraiment une histoire vraie. Et c'est là où tu découvres, tu fais, mais en fait, le monsieur qui est en train de me parler. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, quand on vit au Congo et qu'un directeur de casting ou un réalisateur blanc, déjà en étant au Congo, te dit, tu vas faire un casting dans son film, C'est énorme. Donc, tu penses tout de suite que c'est un mec intelligent, c'est un mec qui a de la connaissance. Alors, il y a une différence entre les femmes noires nées en France, qui sont françaises, ou l'acteur ou l'actrice noire qui vient du Congo. C'est pas vraiment pareil. Alors, quand tu arrives, tu as aussi ce complexe-là. Tu dis, ah ouais, on m'appelle pour un casting. Et tu arrives, au fait, tu dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'ils te demandent de faire l'accent africain. Tout de suite, moi, je fais, je ne comprends pas. C'est quoi ? Ah oui, mais faites l'accent africain. Je dis oui, mais ça n'existe pas en fait. C'est pas un pays l'Afrique. Donnez-moi un pays. Parce que n'oublions pas, moi je viens du Congo, il y a un autre Congo à côté, les deux Congos ils parlent pas pareil. On parle français mais c'est pas pareil. L'autre Congo a des accents plus aigus et l'autre a des accents un peu à l'approche du français d'ici. Mais à l'intérieur même il y a des ethnies dans le même pays qui parlent français bien différemment. Et puis le monsieur te dit bah. Non, mais vous êtes pas vraiment africaine, vous êtes trop claire, vous devez venir des Outre-mer, vous. Non, mais parce que quand on regarde une vraie africaine, hein, c'est des lèvres comme ça, bien pulpeuses, hein, des pommettes comme ça, et une poitrine, surtout en derrière, c'est imposant. Et puis vous n'avez pas de balafre et tout ça. Et là, je regarde, mais monsieur, d'où tu es, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sors un peu de ton confort, là. Va chercher, va voir ailleurs. Et tu découvriras, tu verras que. C'est pas ton imaginaire là que tu as, c'est des choses qu'on t'a montré à la télé et tu généralises le monde entier comme ça.
Ça renvoie aussi au fait que quel que soit le film ou le spectacle, le cinéma et le théâtre, c'est des arts politiques. C'est-à-dire que ça a à voir avec la représentation du monde. Et donc, effectivement, on peut se dire, ah bah tiens, j'ai un rôle de servante qui doit passer le balai, bah tiens, je vais prendre une actrice noire pour faire ça. Mais on a une responsabilité politique dans ce type de choix, de perpétuation, de clichés, de domination. Et il y a un vrai rapport à ce qu'on appelle l'empowerment, quoi. Gagner en puissance et en pouvoir. Et c'est vrai encore qu'aujourd'hui en France, et c'est catastrophique, des personnes qu'on va appeler des minorités, mais enfin, il serait temps d'intégrer que les Français sont aussi des personnes noires et aussi des personnes maghrébines, par exemple, et que ces minorités-là, entre guillemets, elles ne sont jamais représentées en tant que médecins, elles sont quasiment jamais présentées en tant que présentateurs télé, etc., etc.
Par rapport à ça, il y a un livre qui est sorti, « Noir n'est pas mon métier ». Et donc c'est Aïssa Maïga qui a rassemblé différentes actrices pour parler de ça justement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a un peu inspiré ?
On a créé le spectacle avant. Voilà. Mais je crois que beaucoup, hélas, d'actrices noires disent la même chose en fait aujourd'hui. Il y a aussi le film d'Amandine Gay qui s'appelle « Ouvrir la voie », V-O-I-X. C'est un documentaire avec beaucoup de femmes noires, diversement noires en fait, qui, parce que pareil, noir, c'est pas une seule réalité quoi en fait. Il y a plein de façons d'être noire et il y a plein de noirs différents évidemment, qui racontent aussi voilà, des femmes qui disent... que lors d'un entretien d'embauche, on leur dit « Ah ben non, on n'embauchera pas une noire parce que la dernière qu'on a embauchée, ça s'est pas bien passé. » Dis jamais à une blonde « Ah ben non, on va pas rembaucher une blonde parce que la dernière avec qui on a bossé, ça s'est pas bien passé. »
Alors le livre avec Aïssa Maïga, oui, je l'ai lu. Il y a même un spectacle autour. Cette question-là, aujourd'hui, je pense que... Est-ce que c'est l'Internet aussi qui a aidé, qui a facilité à tout ça? Je sais pas, parce que les nouvelles sont maintenant vraiment médiatisées. Les gens sont au courant. Aujourd'hui, on regarde les enfants... noirs, qui sont nés en France. Depuis 2 générations, 3 générations, il y a beaucoup qui ne vont pas au théâtre. Pourquoi? Moi, j'arrête pas de jouer dans des spectacles et tout, et j'invite les gens, mais venez. Disent non, mais, oh, nous, on veut pas être dessus parce que quand on va arriver, la seule noire qui va être dans le spectacle, soit elle est esclave, soit elle est femme de ménage, soit elle sait pas parler français. Et ils veulent pas voir ça. Ils veulent voir aussi des représentations de, où on parle aussi d'une femme noire intelligente, avocate ou ministre. Ils veulent voir ça.
J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu en train de changer.
C'est un petit peu en train de changer, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
Oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Souvent, la télé est toujours allumée chez moi, mais je ne la regarde pas. J'ai besoin de bruit parce que d'où moi je viens, la ville, elle est sonore, elle est musicale et il y a toujours le voisin qui vient. Donc, à Paris, à Melun, tu es dans ton appartement, tu ne verras pas ton voisin venir pour venir parler avec toi. Et du coup, j'aime bien avoir un peu de bruit, même quand je suis en train de faire ma musique, lire mon texte. Et là, à un moment donné, je lève la tête, je vois une actrice noire sur France O, et française, et je la connais en plus, Mata Gaba qui passe, je fais « Oh mon Dieu !» Et elle fait flic, elle fait commissaire et tout ça. Oh, le film n'était pas très très génial, mais je l'ai regardé jusqu'au bout. J'ai arrêté tout ce que je faisais et je l'ai envoyé un message. Je suis en train de regarder ce film. Ça ne m'intéresse peut-être pas vraiment parce qu'ils sont en train de faire un peu le copier-coller des séries américaines, mais j'adore finalement ce film, je le regarde parce qu'il y a une femme noire qui représente quelque chose. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage. Parce que la France n'est pas que blanche, en fait.
Ni blanco.
ni Blanco non plus.
Donc ça, ce sera, il faut voir le spectacle.
Mais les Blancos, il y en a partout. Et chez moi, en Afrique, il y a des Blancos. Les Blancos, ça ne veut pas dire être blanc. Voilà. Non, il faut venir voir le spectacle, vous allez comprendre c'est quoi les Blancos et c'est qui les Blancos.
Parce que la prochaine représentation, elle est en Rhône-Alpes, c'est en novembre et c'est à Saint-Julien en Genevois.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.